Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, et bien sûr ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien tout d'abord de l'Inde, qui est l'un des amis les plus proches et les plus importants d'Israël. On parlera de Jérusalem qui a célébré le 54e anniversaire de sa réunification. Jérusalem qui se classe, il faut le savoir, au premier rang des destinations touristiques en Israël. Et le Parlement tchèque qui a évoqué Yom Yerushalayim. D'ailleurs nous ferons un focus sur les Juifs de Tchécoslovaquie. À l'occasion de la sortie sur Netflix de la saison 3 de la série Les Shtissel, une famille à Jérusalem, l'anthropologue Florence Eman est revenue sur la véracité de ce portrait d'une communauté juive ultra-orthodoxe. Alors, comme si de rien n'était, je vous propose de passer en ma compagnie 48 heures à Tel Aviv, la ville blanche qui ne dort jamais. Et on parlera de Gershon Doua, qui est le président de la communauté juive de France. Mais avant cela, bien sûr, je vous propose un petit peu de musique.
Ani holech elaych kol yamay. אני הולך אלייך מסונבר, אבנים פוצעות את כפותיי, אבל אני אין לי מרגיש דבר.
אני חוזר מארץ לא זוהה, מושיט ידי לנטוף את שערך, הנה לי כאן אך כמו יונה פצועה. אני נופל תמיד מול שערך,
הנה לי כאן כמו ציפורים חגות, הנה לי כאן מביטין הגדול, הנה לי כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע כמו באר. אני אשר תמיד חוזר.
אני חוזר באלף גילים, אני מזכיר מלך וגבצן, ובלילות לבכות השועלים. אני חולם וארבח בו בזמן,
במדבר זריחות רכות נשקו אותך פנים, שקיעות גדות נשקו אותך צוואר.
כך ראיתיך יושבת ומצפה, ובעינייך אור וצבר, כך לקחתיך איתי אל החופה, את היחפה כתר של זהב. הנה לי כאן עוד ציפורים חדות, הנה
Hinenikan Yoram Gaon et Harel Scat. Alors, je vais vous parler de l'Inde, qui est l'un des amis les plus proches et les plus importants d'Israël. D'ailleurs, des avions contenant du matériel médical comme des respirateurs, des générateurs d'oxygène et des médicaments sont partis pour l'Inde. C'est ce qu'a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères. Les premières expéditions ont été envoyées mardi et le reste tout au long de la semaine, a précisé le ministère. L'Inde est l'un des amis les plus proches et les plus importants d'Israël. Surtout en cette période difficile, nous la soutenons et envoyons du matériel de sauvetage à nos frères indiens. C'est ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi. Le système médical indien a été gravement mis à l'épreuve par l'épidémie du Covid-19 dans ce pays. Le géant asiatique a recensé 370 000 contaminations et 3 400 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le bilan total à plus de 219 000 morts, une flambée attribuée à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction, il faut le dire, du gouvernement de Narendra Modi. Les hôpitaux sont submergés à court de réserves d'oxygène, de médicaments et de lits. Des avions chargés d'équipements médicaux proposés par l'Allemagne et la France sont déjà arrivés à New Delhi pendant le week-end dernier et de nouvelles aides sont attendues à bord de 3 vols de la compagnie Qatar Airways. En France, le CRIF, le Conseil de représentation des institutions juives de France, a félicité M. Gershon Doua, lauréat du diplôme spécial d'excellence et pertinence, décerné à 35 personnalités de la diaspora congolaise. Gershon Doua est le président de la Fédération des Juifs Noirs, association qui est membre du CRIF. Né en 1964, Ndoua Gershon est originaire de la République démocratique du Congo, homme simple, il est très attaché à la République démocratique du Congo, fonctionnaire au ministère des Affaires sociales à Kinshasa. Tout commence en 1988, lorsqu'avec une bourse en poche depuis Kisantu dans le Congo central, il se rend en Israël pour suivre des études en civilisation hébraïque. La société israélienne m'a accepté et formidablement bien accueilli. J'ai appris ses coutumes et je me suis converti au judaïsme en 1995, a-t-il expliqué. Converti au judaïsme à l'âge de 28 ans, il a changé son prénom d'Edouard pour Gershon. Juif et noir, il milite aujourd'hui pour la visibilité et le développement dans l'espace républicain français de la communauté juive noire, tout en diffusant les valeurs humanistes, l'esprit de tolérance et la paix. Ignorés ou tout simplement peu connus, les Juifs noirs ont une réelle identité. Respectueux de la Torah et de tous les rites, les Juifs noirs désirent être reconnus comme Juifs à part entière et ouvrir les mentalités à d'autres schémas que les traditionnels ashkénazes et séfarades qui constituent la majorité des pratiquants du judaïsme. Avec le soutien de plusieurs personnalités influentes comme Roger Tsoukerman, l'ancien président du CRIF, Gershon Doua a créé la FJN, la Fédération des Juifs Noirs, pour expliquer son combat et développer le lien entre tous les Juifs, peu importe la couleur de leur peau. Dans son livre, un essai interpellant qui prône la tolérance entre les diverses communautés juives, il revient sur son parcours, les difficultés rencontrées par les Juifs Noirs pour la reconnaissance de leur statut, l'histoire de sa communauté, mais en premier lieu, il délivre un message de paix et d'acceptation de l'autre.
שוקולד שאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד בכל שיום נראה
Chaque année, quelques semaines après Yom HaTzmaout, les Israéliens ressortent leurs plus beaux drapeaux et le cœur en fête célèbre la réunification de la ville sainte. À travers Yom Yerushalayim, nous célébrons les 54 ans de la réunification de Jérusalem. Le jour de Jérusalem célèbre donc la réunification de la ville de Jérusalem, et cela après la conquête de Jérusalem par l'armée israélienne Tsahal au cours de la guerre des six jours en 1967. Elle est célébrée à la date hébraïque du 28 Iyar. Durant 19 ans, la vieille ville de Jérusalem est restée sous autorité jordanienne et la présence juive y fut interdite, y compris sur les lieux saints du judaïsme. À l'issue de la guerre des six jours de 1967, l'armée israélienne parvient donc à conquérir Jérusalem et à réunifier sa capitale. Israël déclare alors officiellement « Jérusalem réunifiée, capitale éternelle et indivisible du peuple juif ». Yerushalayim, donc, pendant 19 ans, il faut se le rappeler que cette ville est restée sous autorité jordanienne. Ceci dit, le Parlement tchèque a évoqué Yom Yerushalayim devant la Chambre des députés de Prague. Le président du Parlement a évoqué Yom Yerushalayim. Il a déclaré « Cette année, la Tchéquie a réalisé sa promesse de hisser le drapeau tchèque à Jérusalem. Le maire de la capitale israélienne, Moshe Leon, l'a remercié, ainsi que le président tchèque, Miloš Zeman, et le maire de Prague, Zdeněk Tripp. Au mois de mars dernier, lors de sa visite en Israël, le premier ministre, Andrej Babiš, avait inauguré les locaux qui serviront dans une seconde étape d'ambassade de la Tchéquie à Jérusalem.
Baruch ata Adonai,
Baruch Atah Adonai,
Baruch Abba Yerushalayim,
Baruch
Atah Adonai,
Baruch Atah Adonai,
Baruch Abba Yerushalayim.
We'll be right back.
from the Bible to the Quran. Revelation in Jerusalem, Shalom. Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, Irahim. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, Irahim. Jerusalem, je t'aime. Israel Yakirati, ani oevota, Israel Yakirati. Israël Yakirati. Israël Yakirati.
C'était Alpha Blondie avec cette chanson sur Jérusalem. Sachez que justement Jérusalem se classe au premier rang des destinations touristiques en Israël par rapport aux 74% de touristes qui ont visité Tel Aviv la même année. Jérusalem s'est imposée juste devant la Ville Blanche en tant que destination la plus populaire d'Israël. Jérusalem est la destination la plus visitée par les touristes se rendant en Israël depuis l'étranger, en tout cas selon de nouvelles données publiées par le ministère du Tourisme. Environ 79% des touristes visitant Israël en 2019 se sont arrêtés à Jérusalem pour se balader dans les rues de la capitale israélienne et les sites historiques de la vieille ville lors de leur visite de l'État juif. Par rapport aux 74% de touristes qui ont visité Tel Aviv la même année, Jérusalem s'est placée donc juste devant la Ville Blanche en tant que destination la plus populaire d'Israël. Avant le début de la pandémie de coronavirus, Israël a connu une année record pour le tourisme entrant en 2019 avec environ 4,55 millions de touristes étrangers visitant l'État juif cette année-là, un bond de 11% par rapport à 2018, injectant environ 23 milliards de shekels dans l'économie. Jérusalem, la capitale d'Israël, est une ville avec une histoire, une profondeur, une variété et une beauté spectaculaires. Et c'est aussi la destination préférée des touristes étrangers, ce qui fournit un moyen de subsistance à des milliers d'habitants de Jérusalem. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Tourisme, Orit Farkash HaKohen. J'espère sincèrement que dans un proche avenir, nous pourrons voir des touristes errer dans la vieille ville, le marché de Machane Yehuda, le centre commercial piétonnier et le complexe First Station. Les touristes qui manquent tellement dans le paysage de Jérusalem ne visitent pas seulement la Terre Sainte, ils renforcent également l'ensemble de l'économie israélienne, encore ajouté Orit Farkash HaKohen. Dans les années passées, Jérusalem était un aimant pour des millions de chrétiens du monde entier et je suis convaincue que dans les années à venir, elle doit attirer également des touristes arabes et musulmans des Émirats, du Maroc, de Bahreïn et d'autres pays. Israël se prépare au retour du tourisme international après une interruption d'un an en raison de la pandémie de coronavirus en cours, le ciel devant s'ouvrir aux touristes étrangers fin mai. Et vous l'aurez donc compris, chers auditeurs, tout cela était avant les événements qui se déroulent actuellement au Proche-Orient.
comme un enfant, ma pensée te dessine, Yerushalayim. De loin en loin, tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, elle sait les migrants, dont les yeux brûlants s'ouvrent à l'écho de ton nom. D'au-delà les mers, souvent à travers, d'hostiles et dures régions. J'étais venu, ma vie des pieds nus, à toi. Pour me garder, tu as cloué l'amour dans ma poitrine. Yerushalayim, où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épine? Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer.
Charles Aznavour, pardon, vous l'aurez reconnu, avec Yerushalayim. Alors maintenant, focus sur les Juifs de Tchécoslovaquie. Jérusalem, une et indivisible, la capitale d'Israël, qui en douterait? Et pourtant, les pays de la planète hésitent encore à franchir le pas et installer leur ambassade dans la ville sainte, la cité du roi David. On a évoqué la possibilité de gestes décisifs du Brésil, de la République dominicaine, du Malawi et de la Serbie. Mais à ce jour, seuls 3 États ont accompli le grand saut, à savoir les États-Unis, le Guatemala et le Kosovo. 2 autres ont été un peu plus timides, mais c'est très encourageant. La Hongrie et la Tchéquie ont installé des missions diplomatiques à Jérusalem. Pour ce qui est de la République tchèque, c'est donc le 11 mars dernier que le Premier ministre, M. Andrés Babiš, a inauguré, en présence du ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, un bureau à Jérusalem. Alors voici, en attendant dans une prochaine émission, une étude sur le judaïsme hongrois, un texte sur les Juifs de Tchécoslovaquie. Alors il était une fois la Tchécoslovaquie. Comme on le sait, ce pays n'existe plus. Formée en 1918, la République de Tchécoslovaquie s'est scindée en 2 États en 1993, la Tchéquie avec Prague pour capitale et la Slovaquie avec Bratislava pour capitale. Mais qu'ils soient tchèques ou slovaques, les Juifs de Tchécoslovaquie ont une longue histoire. Aujourd'hui, s'ils sont de moins en moins nombreux, ils ont néanmoins marqué de leur empreinte le pays où ils ont vécu au cours des siècles. Car la Tchécoslovaquie, c'est le pays de Franz Kafka, natif de Prague. Mais c'est surtout pour les Juifs la terre où vécut l'immense Maharal de Prague, le rabbin Yehuda Lev ben Betzalel, 1525-1609, celui dont la légende raconte qu'il créa par la seule force de sa pensée un être animé, le fameux golem. Et si Prague n'abrite plus, comme dans les années 20 ou 30, une communauté juive nombreuse et dynamique, le golem est devenu la mascotte de la ville, porte-clés, figurines et autres t-shirts à l'effigie du gentil monstre sont proposés aux touristes dans toutes les boutiques de souvenirs. Certains lieux de culte juif de Prague sont désormais des passages mythiques obligés des visiteurs. La respectable synagogue Alt-Neuschule, synagogue neuve ancienne datant du XIIIe siècle, le musée juif qui accueille près d'un million de visiteurs chaque année, l'hôtel de ville juif qui date du temps où les différents quartiers de la capitale étaient autonomes. Le visiteur est toujours intrigué par l'horloge du beffroi au caractère hébraïque et dont les aiguilles tournent à l'envers. Sans oublier le vieux cimetière avec la tombe supposée du Maharal, situé dans un immense parc au centre de la ville, il abrite quelques 100 000 sépultures, 12 couches superposées dans un désordre indescriptible. Et outre l'Alt-Neuschule, de nombreuses synagogues souvent transformées en musées, la synagogue haute, la synagogue espagnole Pincas ou encore la synagogue synagogue Klaus. Les historiens s'accordent à penser que les premiers juifs qui s'installèrent en Tchécoslovaquie, notamment dans les régions de Bohême et de Moravie, arrivèrent au IXe siècle avant même la christianisation du pays. Et au XVIIe siècle, le ghetto juif de Prague, Josef Hof, comptait 15 000 âmes, soit 30% de la population de la ville. Avec l'entrée dans la modernité au XIXe siècle, les murs du ghetto sont abattus et la population juive s'intègre peu à peu. Et en 1938, alors que les bruits de bottes nazies se font inquiétants en Europe, il y a plus de 300 000 juifs dans le pays et la plupart disparaîtront malheureusement dans l'enfer de la Shoah, notamment dans l'infâme camp de Theresienstadt. Au sortir de la guerre, il n'y a plus que quelques milliers de juifs en Tchécoslovaquie. Un conseil des communautés juives tchèques, longtemps dirigé par le docteur Désiré Egalski, auquel succédera le docteur Kraus, aidé de Victor Feuerlich, tentera de faire vivre contre vents et marées ce qui restait d'une communauté jadis florissante, en engageant des rabbins venus souvent de l'étranger et en ouvrant un restaurant kasher rue Maeslova. Bien que la Tchécoslovaquie était l'un des rares pays à soutenir l'État d'Israël en gestation en lui fournissant des armes et des munitions lors de la guerre d'indépendance et en le reconnaissant immédiatement à sa création en 1948, la vie des Juifs sous le communisme a été particulièrement difficile. Après la chute du communisme, l'espoir est revenu. C'est ainsi que des loges du Bnei Brit sont réapparues à Prague comme à Bratislava. Une synagogue rabat a vu le jour dirigée par le rabbin Manes Barash. Un événement sympathique s'est déroulé en 1992. Pour la première fois depuis 50 ans, une bar mitzvah a été célébrée dans la synagogue Altneuschule. Un jeune garçon, Marc Félix, dont la famille est originaire de Tchécoslovaquie, est venu tout spécialement de Londres pour célébrer sa majorité religieuse au pays de ses ancêtres et en présence de l'ambassadeur d'Israël et du cardinal de Prague. Parfois, des nouvelles moins réjouissantes nous parviennent de Tchécoslovaquie. Ainsi, en juin 2009, 63 tombes ont été profanées dans le cimetière juif d'Uherský Ostrov, à l'est de la Tchéquie. Notons qu'il reste 350 cimetières juifs dans le pays. Par ailleurs, à la suite d'une conférence qui s'est tenue à Washington en 1998, une fondation a été créée qui vise à restituer aux Juifs de Tchécoslovaquie les biens et les objets d'art qui leur ont été volés pendant la Seconde Guerre, mieux vaut tard que jamais. Parmi les personnalités juives pragoises des temps modernes, il convient de signaler Jan Fischer qui a été Premier ministre en 2009 et en 2010. Une bonne nouvelle nous est parvenue en juillet 2014 avec la réouverture de la synagogue de la ville d'Ouchtek en Tchéquie qui date du XVIIIe siècle et qui a été rénovée ainsi que la maison du rabbin attenante. Cette maison sert désormais de lieu d'exposition et dans les sous-sols de cette synagogue fonctionne une école juive grâce à un projet intitulé « Les 10 étoiles ». 6 autres synagogues et 4 sites ont été restaurés. Le financement de ces rénovations a été assuré par l'Union européenne et le gouvernement tchèque. Sur le territoire tchèque, 60 synagogues sont aujourd'hui conservées en bon état. Et en mai 2017, un mikvé, un bain rituel datant du XVIe siècle, a été mis à jour à Shrudim. Et en octobre de la même année, un Sefer Torah a été restitué à la synagogue d'Olomouc. En janvier 2018, un traité grammatical écrit en hébreu et en latin a été restitué à la bibliothèque de la communauté juive pragoise. En 2021, on estime qu'il y a environ 5000 juifs à Prague et autant à Bratislava. Alors, il était une fois la Tchécoslovaquie, il était une fois des juifs en Tchécoslovaquie.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ?» Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup. en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique à tous individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empires de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre et sur terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerrané. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les juifs de tous. À ceux qui me disent, et les Palestiniens ? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
C'était bien sûr Herbert Pagani avec « Plaidoyer pour ma terre ». À l'occasion de la sortie sur Netflix de la saison 3 de la série Les Stiessel, une famille à Jérusalem, l'anthropologue Florence Eman revient sur la véracité de ce portrait d'une communauté juive ultra-orthodoxe. Depuis sa sortie sur Netflix, la série Les Stiessel, une famille à Jérusalem, connaît un succès retentissant. Sur 3 saisons, la vie quotidienne d'une famille ultra-orthodoxe à Jérusalem, en contrepoint aux nombreux fantasmes que véhiculent les communautés fermées comme les Haredim, ces juifs ultra-orthodoxes, la série nous fait vivre le quotidien d'une famille du quartier de Géoula, Jérusalem. L'anthropologue et chercheuse au Centre français de Jérusalem, Florence Eman, affirme que les Stiessel ne montrent pas une vision romantique ou romantisée des Haredim, mais bien un traitement fidèle des enjeux contemporains, de cette communauté. La série Les Stiessel a été créée et écrite par Ori Elon et Jonathan Indursky, qui viennent eux-mêmes de la communauté ultra-orthodoxe. L'un vient d'une communauté religieuse sioniste et l'autre vient de l'ultra-orthodoxie, mais en est sorti. Ce dernier est passé par l'association Hillel, qui aide les ultra-orthodoxes qui quittent leur communauté à se resocialiser. Ce qui est extraordinaire dans cette série par rapport à d'autres qui ont pu mettre en scène des ultra-orthodoxes, c'est son exactitude anthropologique et sociologique. C'est un vrai régal de voir cette série quand on connaît bien ce milieu. La série tend également à casser l'image d'austérité souvent associée à cette communauté ultra-orthodoxe, sans pour autant faire un portrait idéalisé. Et au fil des saisons, on s'aperçoit qu'il s'agit avant tout de femmes et hommes animés des mêmes passions, chagrins et lubies que tout autre être humain. Si c'est cet aspect humanisant qui a particulièrement touché un des acteurs de la série, Michael Aloni, Florence Eman rappelle que la communauté des Haredim n'est pas sans difficulté. C'est une société avec énormément de problèmes, notamment dans la confrontation avec le reste de la société israélienne. Ce n'est pas une société homogène comme la série le laisse penser. Les Stiessel mettent en scène une partie restreinte de la communauté ultra-orthodoxe, les Yérosolomitains qui vivent dans le quartier de Mea Shearim et sont les descendants ashkenazes de l'ancien Yishuv, territoire qui correspond à la Palestine d'avant la formation de l'État d'Israël en 1948. Il s'agit donc d'une portion réduite de la société ultra-orthodoxe qui est beaucoup plus large et hétérogène. Les Haredim vivent entre eux dans des espaces ghettoisés spatialement, socialement et culturellement, essayant de réduire le plus possible les contacts avec la société extérieure. Difficile néanmoins de ne pas voir et être confronté à cette population d'1 million d'habitants, ce qui représente près d'1/7 du nombre total de Juifs sur le territoire israélien. Si certains espaces sont ghettoisés, d'autres sont bien plus mêlés à la vie d'autres quartiers. Alors quand on vit à Jérusalem, on les croise en permanence. Je vis dans un quartier mixte d'une grande hétérogénéité où l'on trouve des laïcs, des traditionalistes, des religieux nationaux et des ultra-orthodoxes. Et même s'ils sont rassemblés dans un faubourg de Tel Aviv, leur deuxième capitale après Jérusalem, il y a aussi des groupes ultra-orthodoxes dans le reste de la ville, a toujours déclaré Florence Eman. Pour cette dernière, il est certain qu'une série à succès diffusée sur Netflix peut contribuer à mieux comprendre cette communauté. Ce sont des êtres humains avant tout, des gens qui aiment, qui ont peur et qui évoluent. C'est une société qui s'agrandit en permanence et qui a donc de plus en plus de contacts avec la société aux alentours. La série Les Stiessel est également très populaire en Israël si elle a pu faire évoluer la vision des ultra-orthodoxes au sein de leur pays. Florence Eman rappelle que la société ultra-orthodoxe est très hétérogène. Les Haredim sont le sous-groupe ultra-orthodoxe le plus pauvre qui dépend financièrement des subsides de l'État et d'aides de l'étranger. L'enchaînement des crises économiques et sanitaires a affecté cette communauté où les hommes, depuis les années 60, ne travaillent pas. Tout repose sur les femmes qui ont en général des professions. Les hommes passent leur vie dans des académies talmudiques jusqu'au mariage, puis continuent à étudier dans des kollelim. Pour pouvoir faire bouillir la marmite, les femmes doivent être plus éduquées dans les matières profanes. Cela crée des changements au sein des familles et dans la communauté tout entière. Enfin, une des évolutions tient à l'influence que les ultra-orthodoxes qui viennent de l'étranger et passent quelques années en Israël ont sur les ultra-orthodoxes israéliens, ayant été plus souvent confrontés à la société extérieure. Ils amènent avec eux des habitudes différentes et une autre ouverture sur le monde. Un autre élément qui remet fondamentalement en question le mode de vie des Haredim est bien sûr le développement des réseaux sociaux. Mais les rabbins essayent à chaque fois de trouver des parades pour les smartphones. Ils ont trouvé des téléphones cachers, mais oui, il est prohibé d'avoir Internet ou un appareil photo.
Onaheim bin ich jung geblieben. Es hat den Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahr gehabt, in der Fremd, weit von Mames Augen, hat in Schmutz mich die Gast der Zeugen, geworden ist von mir a Beuleriat. Ich bin a Vreimu, der fähigster Marwicher, a größer Künstler, Arbeit leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, bis ein Teut. A rein in die Füße, verlacken in a Bräut. Oi, oi, ich fahr nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mechaie, wenn ich tappe sa Magnat. Ich bin aber immer gar a Feuleriat. In der Fremd nicht gehabt zum Leben, gebeten Bräut an Ormer pflegt noch geben, nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Es wächst a Ganef, es ist mir kuhem geworden. A Ganef bin ich nur a Weileriat. Ich bin a Vreimel, der fähigster Marwicher. A größer Künstler, Arbeit leicht und sicher. A Jatta kleiner, a rein in Kutschement. A Reusa Masik, a seltener Talent. Oi, oi, ich fahr nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich hab lieber Menschen am milden Anaschbrat. Ich bin a Vreimel, Gora Voileriat. Schoi nicht lang wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von Fisse Meuren. Nur ein Bakosch, ich wollt das so gewollt. Noch mein Teut in a Tag ertrieben. Soll auf mein Mazewe stehen geschrieben. Mit ois jes Größe und von Gold. Da liegt a Vreimel, der fähigste Marwicher. A Mensch a größer gewein wollt von ihm sicher. A Mensch a feiner mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch a reiner, wie Gott alleiner will. Wenn i berühm wollt, gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt, die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt aber Himmel jener Weiler, ja. deines Augen, wenn's Volk de finstere Gas ihm nicht erzeugen, wenn noch als Kind er Taten wollt gehalt, da liegt aber einmal jener Weiler hier.
Voilà, c'était Chava Halberstein. Alors pour terminer cette émission, je vous propose de nous détendre et je vous propose de me suivre pour une balade de 48 heures à Tel Aviv, la ville blanche qui ne dort jamais. Alors, premier jour de la rue Chaïnkine au vieux Yafo, en passant par Neve Tzedek, plongé dans une ville joyeuse et bouillonnante qui regorge de bonnes tables, de cafés bohèmes et de boutiques branchées. Bienvenue à Tel Aviv, la ville la plus hédoniste d'Israël. On la surnomme d'ailleurs la bulle tant elle est à part du reste d'Israël. À Tel Aviv, les femmes voilées côtoient les filles en bikini sur la plage et la fête est partout, sur les toits des immeubles, dans les cours cachés, tout le long de l'avenue Rothschild, et de nouveaux cafés semblent ouvrir tous les jours et la profusion de restaurants de qualité donne vraiment le tournis. Demandez à un habitant de Tel Aviv son top 5 des meilleures adresses, c'est à coup sûr en ajouter 5 de plus à celles que l'on vient de vous donner. Cette offre ferait presque oublier que c'est également une ville culturelle faite pour les amateurs d'architecture, Bauhaus, d'art contemporain, le musée d'art de Tel Aviv et de danse. Suivez la programmation du Susan Delan Center for Dance and Theater entre plage et musée, hummus et gin tonic. Impossible de s'ennuyer à Tel Aviv. Alors, on arrive. L'aéroport Ben Gurion, situé à 15 km de Tel Aviv, a deux terminaux. Le principal, le terminal 3, est relié au centre-ville par le train, plus rapide et bien moins cher que le taxi. Comptez 3,50 € pour aller à Haganah, le sud du centre-ville, à Shalom, le centre-ville, Savidor Center, le nord du centre-ville. Attention, pas de transport en commun du vendredi soir au samedi soir. Cause le Shabbat, le terminal numéro 1 qui reçoit les vols low-cost internationaux est lui relié au terminal 3 par une navette gratuite, prévoir une demi-heure de plus. Le centre de Tel Aviv, petit et plat, se parcourt bien à pied. Le vélo est d'ailleurs le meilleur moyen de passer de quartier en quartier grâce aux pistes cyclables le long des grands boulevards, du littoral et dans les parcs. On trouve des vélos tels au fun en libre service un peu partout, au prix de 12 € pour les 3 jours, ainsi que plusieurs prestataires de trottinettes électriques. Alors, en matinée, je vous propose d'aller de Sarona à Nahalat Binyamin. Pour prendre le pouls de la ville, commençons par un petit déjeuner sain et copieux au Bug Café de la rue Achat Ha'am. Agréable petit café bobo, le terme n'est pas péjoratif ici. Puis on file au musée d'art de Tel Aviv pour un bain de culture. Parmi les 32 000 œuvres de la collection des pépites, la peinture murale de Roy Lichtenstein, l'art cinétique de Yaakov Agam, mais aussi des Klimt, Pollock, Gauguin ou encore Picasso, sans oublier le superbe juif priant dans une synagogue à Yom Kippour de Moritzi Gottlieb. Le musée propose 25 expositions temporaires par an. Admirez aussi l'architecture épurée, tout en ligne brisée, de la nouvelle aile du musée signée Preston Scott Cohen. Et à deux pas de là, le quartier Sarona conserve ses vieux bâtiments au pied des immeubles de verre du centre Azrieli. Drôle d'histoire que celle de ces maisons bâties au XIXe siècle par un mouvement pieux de protestants allemands, les Templiers, et qui servirent par la suite de siège au premier gouvernement israélien. Les bâtiments abritent désormais un musée historique, des commerces et des restaurants, très vivants à midi lorsque le quartier d'affaires voisin fait relâche pour la pause médiane. Alors, pour la pause déjeuner, je vous propose au choix un déjeuner chic et choc au pastel, le sublime restaurant contemporain installé dans le musée d'art de Tel Aviv. Le talentueux chef Kobi Bachar y revisite le chou farci et propose un shawarma aux fruits de mer au yogourt de tahini. En dessert, ne manquez surtout pas sa glace au sésame noir et à déguster face au jardin des sculptures du musée. Autre option, le marché de Sarona, vaste halle marchande où toutes les cuisines du monde sont préparées sous vos yeux. Essayez par exemple le shawarma de Segev Concept, délicieux et bondé à midi. Alors, nous sommes déjà dans l'après-midi entre le boulevard Rothschild, l'axe principal de la ville avec ses cafés et restaurants, et la rue Allenby. On découvre une foule de bâtiments Bauhaus. Tel Aviv en compte en fait 4000 au total, soit le plus grand ensemble d'architecture moderne au monde, classé à l'UNESCO en 2003. Arrogante d'élégance immaculée, les bâtisses renvoient pour autant l'image d'une ville lumineuse et fonctionnelle. Le tout récent White City Center Lieblinghaus, dans le mini-quartier de Bialik, permet de mieux comprendre l'essor de cette architecture et bien sûr de visiter un intérieur Bauhaus, une rareté. Ambiance bohème chic dans la toute proche rue Scheinkin, où s'alignent les boutiques de créateurs. Descendez ensuite le boulevard Rothschild pour rejoindre le quartier de Florentine, investi par les artistes, et faites le plein d'épices orientales au marché Levinsky. Alors, pour l'apéro et le dîner dans la rue Nachalat Binyamin, Yair Yosefi concocte une cuisine de haute volée dans son bistrot à vin qui n'a de brut que le nom. Tartare de bonitch ou farci à l'agneau sont arrosés de blanc élégant et de rouge du Mont Carmel. Une adresse coup de cœur, chaleureuse et intime, et juste à côté, Rima Olvera à l'Oasis ose une cuisine fusion inspirée des produits rapportés de l'étranger par ses amis. Original et très réussi. Alors plus tard dans la soirée, on reste sur Nachalat Binyamin pour rejoindre la jeunesse bohème branchée au Bicicletta, un charmant bar qui dispose ses tables en terrasse dans un décor de place de village et à quelques pas, gin tonic sur le toit du The Prince, le prince auquel on accède par un escalier tagué. On y retrouve la même faune jeune amicale et hearty. Un autre skybar bien plus élevé nous attend à moins de 10 minutes de là, en remontant la rue Allenby, le Haiku. Perché au sommet du Lighthouse by Brown Hotel, la vue à 360 degrés sur les lumières de Tel Aviv est particulièrement splendide. Et en été, le toit est retiré. On fait la fête sous les étoiles en pleine ville. Côté boisson, recommandons le Mont Fuji, un savant dosage de gin et de saké. Alors, bonne promenade à Tel Aviv.
בסמים ולבונה לרגלך מפתן ערב של שושנים נצאנע אל הבוסתן מור בסמים ולבונה לרגלך מפתן לילה יורד לבד רוח שושן נושבה, אהבה אל חי שלך שיר בלט, זמר של אהבה. לילה יורד לאט, רוח שושן נושבה, אהבה אל חי שלך שיר בלט, זמר של אהבה. Aroma yoma roshech mahalet el alim pich el haboker shoshana ek tehefein ulim shacharoma yoma roshech mahalet el alim pich el haboker shoshana Tehefeinu li Laila yored lehat Veruach shoshan eno sheba Hava helcha shelach shir balad Zemmer shel ahava Laila yored lehat Veruach shoshan eno sheba Balad, Zemer shel Ahava, Zemer shel Ahava.
Et c'est avec Erev Shel Shoshanim, cette jolie chanson des Doudaïm, que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Quant à moi, j'ai bien l'intention de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne, en ce qui concerne la suite du programme sur les ondes de Radio Judaïka. Place aux informations avec le direct de Tel Aviv et de Jérusalem. Je vous souhaite bien sûr Guit Shabbes, Shabbat Shalom, et on se retrouve la semaine prochaine.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et de Juifs, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now. Don't stop me.
'Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping.
השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי